On vous l'avait promis, on fera un tour des 28 États membres et on commence par la Finlande. Je pense que Michael Bock est avec nous en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Je le disais, vous êtes en Finlande, vous êtes membre du Parti Pirate finlandais. Est-ce que vous, de votre côté, le Parlement européen a permis de faire avancer une des causes qui vous est chère, c'est-à-dire le numérique ?
Maintenant, je n'ai pas bien compris.
Est-ce que vous avez l'impression que l'Union européenne et le Parlement européen a permis de faire avancer des dossiers qui vous sont chers et dont on reparlera un petit peu après, notamment la neutralité du réseau, par exemple, et le numérique ?
Je suis désolé, mais ma pratique de parler français, c'est pas...
We can do it in English if you want. Is it
better? Je veux absolument insister à parler français.
En français.
Oui, mais...
Dites-nous, vous avez l'impression qu'il y a eu une évolution?
Une évolution de quoi?
Par exemple, si on prend la neutralité du réseau, la protection du numérique et de nos données personnelles, est-ce que le Parlement a pu être un élément qui a forcé la main parfois aux États et qui a pu être profitable aux citoyens ?
Mais bien sûr, et je pense là que les deux pirates suédois, membres du Parlement européen, Christian Lindström et Amelia Andersdotter, ont déjà fait un très bon travail pour arrêter l'accord international nommé ACTA, qui menaçait la liberté d'expression en ligne. Et il y a là un grand travail à faire, sans doute, au nouveau Parlement.
Ça reste un des enjeux pour les 5 prochaines années à venir, pour le nouveau Parlement ?
C'est un grand enjeu, oui. Et surtout, il faut éviter les dangers du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement qu'on négocie actuellement avec les États-Unis. Et là le rôle des pirates est souvent d'informer les autres groupes politiques de certains risques, mais aussi sur les bonnes occasions que l'Internet a apportées avec elles.
Merci beaucoup, Michael Bock, d'avoir été avec nous. J'espère que je n'ai pas trop écorché votre nom. Et merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de parler en français.
Merci.
On continue d'ailleurs sur le numérique, on revient du côté de Nantes, Anthony. Nous avons avec nous Jocelyn, qui est bénévole au sein de l'association FAI Maison. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors peut-être qu'on peut expliquer
déjà
en deux mots.
Quelques mots sur FAI Maison déjà.
Alors FAI Maison est une association loi 1901 qui opère dans Nantes et ses alentours. Et nous sommes fournisseurs d'accès à Internet, à savoir qu'un petit peu au même titre que Free, Orange, etc. que vous pouvez connaître, nous proposons à nos adhérents des offres d'accès à Internet via la DSL qui sont gérées tant techniquement qu'administrativement par des bénévoles. Et au-delà de cet aspect service, nous considérons Internet comme le moyen de communication qui implémente la liberté d'expression. Et à ce titre, on a à cœur de venir expliquer comment Internet fonctionne d'une part et d'autre part de défendre en fait le fonctionnement d'Internet contre des attaques qui peuvent être législatives.
Quel est l'intérêt de passer par vous au lieu de passer par des grosses boîtes comme Orange et compagnie ?
Alors l'intérêt, déjà si on est curieux, on peut comprendre comment ça marche. Ensuite il y a un côté social qui est très important pour nous, c'est-à-dire que vous pouvez aller boire un coup avec votre fournisseur d'accès à Internet.
Ah oui. Et c'est déjà un bon point.
C'est déjà un bon point.
Ça arrive souvent avec FAI Maison, il faut le préciser.
Et c'est à taille humaine, vous êtes en train de nous dire ça, hein, c'est ça hein.
C'est ça, c'est à taille humaine et d'autre part on s'engage en fait sur des principes éthiques tels que la neutralité du réseau sur lequel peut-être on développera par la suite.
Alors justement, oui.
La neutralité du réseau, on va en parler puisqu'il y a un dossier que vous avez suivi de près lors du précédent mandat du Parlement européen, c'était le marché unique des télécommunications. On a beaucoup entendu parler du fait que nos SMS allaient coûter moins cher à l'étranger, c'était un petit peu le gros point qui intéressait le citoyen, mais la neutralité du réseau, ça nous concerne tous aussi.
Alors d'abord, excusez-moi, mais neutralité du réseau, ça veut dire quoi ? Parce que déjà, là, je comprends pas.
Alors, d'accord.
Ouais.
Donc la neutralité du réseau, pour resituer le cadre un petit peu législatif duquel on va parler, donc le marché unique des télécoms, c'était une proposition de règlement soumise par la Commission qui incluait donc la fin des frais d'itinérance dont vous parliez, la neutralité du réseau et la répartition du spectre de fréquence. La neutralité du réseau, en elle-même, c'est un principe assez simple qui dit que le fournisseur d'accès à Internet ne va pas privilégier certains services ou certains sites par rapport à d'autres. Donc, on peut expliquer ça un petit peu par une analogie avec le...
Parce que c'est le cas actuellement. C'est-à-dire que si vous êtes chez un fournisseur d'accès, il peut privilégier certains sites Internet.
Alors, il en a de toute façon techniquement le pouvoir. Ouais. C'est là que se situe l'enjeu, en fait. Ouais. C'est historiquement, Internet est neutre. Et tout l'enjeu est de savoir... Si, on constate que les opérateurs ont tendance à le rendre non neutre pour des questions de profit, souvent. Mmh. Et l'enjeu est en fait de faire inscrire cette neutralité, de l'imposer aux opérateurs dans la loi. Et c'est ça qui se joue au sein du marché unique des télécoms, donc de ce projet de règlement.
On a d'ailleurs des exemples assez concrets, si on pense évidemment à nos téléphones portables et à la téléphonie mobile.
Voilà, alors un exemple pour comprendre la neutralité... Il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qu'un accès non neutre. Donc un exemple, effectivement, avec les forfaits de téléphone mobile, certains opérateurs proposent des forfaits réunissant des minutes de communication, de la voix et de l'Internet mobile. Seulement voilà, pour qu'on continue à acheter des minutes de voix, il ne faut pas qu'on se mette à téléphoner via Internet. Donc certains opérateurs, il y a des cas en France, il y a des cas en Europe, c'est une atteinte courante à la neutralité du net, bloquent toutes les applications de téléphonie via Internet, dont Skype, dont d'autres, etc. Et donc c'est un accès non neutre. On peut trouver une liste en fait référencée un petit peu des atteintes à la neutralité du net sur un site qui s'appelle respectmynet.eu.
En gros, si on doit expliquer aux gens, ça veut dire que, imaginons, on a Viber ou Skype sur notre téléphone portable, Free, Orange ou SFR va préférer qu'on continue à payer, qu'on aille au-delà de notre forfait en ayant un accès beaucoup plus lent à Skype ou à Viber.
Alors pour l'atteinte dont je vous parlais, c'était tout simplement que l'accès était bloqué. Donc vous aviez une partie d'Internet qui vous était cachée. Vous ne voyez pas la partie d'Internet qui permet de téléphoner par Internet. Et l'intérêt de l'opérateur est que vous continuiez à appeler par la téléphonie mobile classique via votre forfait téléphonique.
Ce combat que vous avez, on a l'impression que c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Comment vous, en acteur local à Nantes, pouvez faire bouger les choses pour qu'au niveau européen, ça bouge ?
Alors, plusieurs moyens qu'on a mis en œuvre. Alors déjà, on n'est pas tout seul. On est, ne serait-ce qu'au niveau des fournisseurs d'accès, on est regroupé en une fédération d'une trentaine de fournisseurs d'accès Internet qui s'appelle la FFDN. Et il y a surtout des organisations telles la Quadrature du Net de défense des citoyens concernant les libertés numériques. Et sur ce qu'on a fait à Nantes, on a fait venir des gens de cette organisation pour expliquer un petit peu... aux gens, aux citoyens et aux élus présents éventuellement, quels étaient ces enjeux. Et d'autre part, il est possible en fait d'appeler des députés européens. Ce qu'on a fait, on a organisé un atelier Pifone, c'est un outil de la Quadrature du Net qui permet d'appeler un eurodéputé pour lui expliquer ses préoccupations face à un projet de loi.
Et vous ressentez qu'il y a des effets à tout cela, à cette espèce de lobbying ?
Oui, alors on peut dire que c'est un lobbying au même sens que d'un côté il y a les lobbies privés, et d'autre part on a les lobbies citoyens qu'on appelle advocacy aux États-Unis par exemple. Et oui, on peut imaginer que ça a eu un impact si on voit au niveau de ce texte. Donc le texte qui est sorti du Parlement européen, on le considère plutôt comme un bon texte qui protège, qui implémente dans la loi le respect de la neutralité du net. Et c'était pas quelque chose de gagné. La commission parlementaire ITRE était chargée du texte, et quand elle a pondu sa première version du texte, il comportait des failles. Et il se trouve que en séance plénière, le texte, trois amendements très importants sont passés, qui définissaient clairement que la neutralité devait être respectée et quelles étaient les rares exceptions qui pouvaient être admises. Et en fait, le passage de ces amendements s'est fait parce que les députés du centre ont changé d'avis entre le travail d'ITRE et le vote en séance plénière. On peut imaginer que c'est lié, entre autres, à la participation citoyenne.
La participation citoyenne qui peut faire changer les choses. Évidemment, comme le disait notre précédent invité par téléphone, il faudra suivre aussi certains dossiers comme le TAFTA et d'autres, le traité transatlantique. Merci beaucoup, Jocelyn de FAI Maison, d'avoir été avec nous. Je vous propose qu'on parte du côté de l'Estonie où on vote par Internet. Andres Kaskamp est avec nous, normalement. Hello, good evening.
Hello, good evening, from Estonia.
Yeah, from Estonia, exactly. Je vais traduire en quelques mots après ça ce que nous dira notre interlocuteur.
I will just say that I will translate some of your words. You're one of the country where we can vote through internet. Does it work?
Yes, it works very well. Estonians are very much used to it and very proud of it as well. We've done it now for several elections in the many years.
So it means that they really use it today for the European elections?
Yes, they don't use it today because it's only for preliminary voting. So they were able to use it in the first half of the week, but today on the actual day you can only do it on paper. So we already know the turnout for the electronic voting, which was 11% of the electorate used the online option.
Donc 11% de la population a voté par Internet, c'est un vote qui se fait en amont du jour de l'élection. How can we be sure that our vote is not manipulated?
The system has been tried many times and we've already had several elections and it's been tested by all sorts of experts and so there's no doubt about it.
Thank you very much, Andrés Cascamp. I just remind our listeners that you are a member of the Politics Science. My colleague Anthony has also a question.
No, pas
de question.
For Arnaud Leclerc.
Pour Arnaud,
in
vous avez
French,
une question.
In French, Arnaud Leclerc, vous avez voté, vous, de façon électronique aujourd'hui, ici à Nantes. C'est encore quelque chose de marginal. Hein?
J'ai voté par électronique à Orvault.
Oui.
C'est une ville qui le pratique depuis un certain temps, mais ça n'est pas une élection par Internet. Vous allez dans le bureau de vote,
absolument.
C'est une machine électronique qui est d'ailleurs déconnectée de tout système informatique, puisque, et c'est une des grandes difficultés, on sait aujourd'hui qu'en France, il y a des grandes craintes dans l'électorat sur ces questions-là, alors qu'on le voit bien, en Estonie, c'est pas le cas. La population a compris que ce sont des systèmes qu'on peut parfaitement sécuriser. C'est pas le cas encore en France où il y a vraiment des craintes qui l'emportent et donc il y a tout un travail de conviction aujourd'hui à faire là-dessus.
Ça veut dire que ce travail il a été fait en Estonie ?
Il y a des pays qui sont plus ouverts à ça depuis fort longtemps. Il y a des expérimentations en France assez courantes, hein, il faut le dire, mais ça n'a pas toujours été merveilleusement bien mis en place et bien encadré. On a eu une expérience un peu malheureuse sur les Français qui votaient à l'étranger aux dernières législatives où le système était assez mal monté avec un certain nombre de désagréments au bout et donc ça freine effectivement.